France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, en direct jusqu'à 13h et pour la première fois de l'année 2026, les duellistes Natacha Polony, journaliste, éditorialiste et à la tête de la nouvelle revue L'Audace, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine et en particulier aujourd'hui, bien sûr, sur les attaques américaines de la nuit sur le Venezuela et la capture du président Nicolas Maduro annoncée par Donald Trump. Et puis pour le débat, nous recevons une romancière, traductrice, scénariste qui s'empare avec vigueur et culture de l'inattendu, qu'il soit amour, catastrophe ou rencontre, cet inattendu qui a la vertu de nous décentrer, de nourrir notre curiosité et de défier nos certitudes pour faire surgir une innocence renouvelée, sous-titre de ce bel essai publié aux éditions Autrement sous le titre La Surprise. Valérie Zenati sera avec nous tout à l'heure, mais pour l'instant place au duel.
Le grand face à face. Thomas Snegaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
Je vous souhaite à tous les deux évidemment une excellente année 2026, à tous les deux mais aussi au nom de l'équipe, à tous nos fidèles auditeurs. Et on va commencer ce duel et cette année avec une information majeure de la nuit. Après les menaces de Trump, la main tendue par le président vénézuélien Nicolas Maduro, accusé d'être à la tête du narcotrafic par les États-Unis, l'attaque militaire donc il y a quelques heures, des frappes qui ont notamment touché la capitale du pays, Caracas, et enfin l'annonce par Trump lui-même même de la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro et de son épouse. Une information majeure, la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodriguez, a pris la parole ce matin.
Il a activé les milices, activé tous les plans. Il a donné des ordres très clairs aux forces armées nationales bolivariennes afin que, dans une fusion parfaite militaire, populaire et policière, tous les plans de défense globaux de la nation soient activés et restent donc activés conformément au décret signé par le président Nicolas Maduro.
Alors, on va essayer d'y voir clair, de donner des clés d'analyse. Et pour cela, peut-être de jouer sur les échelles. Le prof d'histoire géo revient ici. On va commencer à l'échelle peut-être du Venezuela, de la région et peut-être ensuite du monde, de ce que cet événement peut produire. Gilles, d'abord à l'échelle du Venezuela, c'est un pays que vous connaissez bien. Vous nous aviez raconté ici même qu'il y a une dizaine d'années, vous aviez participé à la première campagne présidentielle de Nicolas Maduro. Ce pays, donc, vous le connaissez. Ce président, vous l'avez rencontré. Que peut-on dire à l'échelle du Venezuela de ce qui est en train de se passer depuis quelques heures ?
Alors, je l'ai connu un peu, et je l'ai connu il y a 10 ans, à un moment où, en Amérique latine, mais aussi dans le reste du monde, Nicolas Maduro était perçu comme un espoir de renouveau après la mort de Chavez, un espoir de renouveau et un espoir de la victoire de la branche civile, syndicale, modérée du chavisme, espoirs qui ont évidemment été déçus après. Donc là, on est au cœur de l'actualité la plus brûlante, et vous l'avez dit, je crois, d'un événement qui est un événement majeur et un signe inquiétant du dérèglement du monde. Ça fait des mois qu'on voit la pression monter, depuis cet automne. Il faut se souvenir quand même que vous aviez parlé à l'instant de la main tendue de Nicolas Maduro. Oui. Au mois de juillet dernier, donc il n'y a pas si longtemps, il y avait eu une rencontre entre Donald Trump et Nicolas Maduro qui s'acheminait vers un accord, et notamment un accord autour du pétrole. Depuis lors, il y a eu des pressions militaires dont on a parlé ici, qui étaient des pressions militaires spectaculaires, mais qui étaient pour l'essentiel des pressions maritimes. Et puis Donald Trump a dit assez clairement ce qu'il voulait faire. Il a officiellement autorisé la CIA à opérer au Venezuela. Et cette fois-ci, cette nuit, c'est l'intervention militaire et, semble-t-il, la tentative, on verra où ça en est, d'un renversement politique. L'objectif apparent, c'est la drogue, ça a été évoqué. Les objectifs réels dont il faut essayer de démêler, ce n'est pas si évident, la hiérarchie, il y a un objectif financier qui est le pétrole, puisque le Venezuela est le premier pays en termes de réserves du monde. Et puis, il y a aussi, je crois que c'est au moins aussi important, un objectif politique et idéologique de changement de régime, à la fois au Venezuela, et puis au-delà du Venezuela, dans le reste de l'Amérique latine peut-être.
Précisément, Natacha, on va changer d'échelle, élargir la focale, et ce continent, ce sous-continent sud-américain, 41 changements de régime réalisés par la main de Washington au XXe siècle, on voit là peut-être un 42e au XXIe siècle, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs 1989 au Panama.
Bien sûr.
Où Noriega avait été lui aussi renversé, lui aussi capturé, lui aussi amené en Floride, où il avait passé plus de 20 ans derrière les barreaux, au nom de la lutte contre la drogue. Le parallèle est assez clair.
Arrestation de Noriega le 3 janvier 1990, jour pour jour. Et en effet, j'allais dire, on est habitué à ce que les États-Unis appliquent la doctrine Monroe et l'appliquent dans sa dimension la plus violente. On le sait. Pour ce qui est du prétexte qu'est le narcotrafic, il suffit de rappeler qu'il y a un mois, Donald Trump a gracié l'ex-président du Honduras, Juan Orlando Hernández, qui était condamné aux États-Unis à 45 ans de prison pour trafic de drogue. C'est dire si le trafic de drogue soucie Donald Trump. Donc, on a bien compris, en effet, que le problème était beaucoup plus vaste. Et je dirais que ce n'est même pas seulement la question pure des réserves de pétrole, c'est aussi l'affirmation de cette doctrine Monroe et de, tout simplement, la souveraineté des États-Unis sur l'Amérique latine qui était affirmée dans le document NSS, la National Strategy Security 2025, que nous avions commenté. Donc, il y était question de l'hémisphère occidental et, en effet, très clairement, il est donc affirmé par Donald Trump que cet hémisphère occidental permet aux États-Unis de jouer le rôle qu'ils veulent, ce qui est profondément dangereux pour l'équilibre du monde. Et on peut rappeler que, juste une chose, en 2018, ça a été démontré, il y avait un lien entre les magistrats brésiliens et les autorités américaines dans l'enquête qui a amené Lula en prison. C'est ce qui signifie qu'en fait, la stratégie d'indépendance du Brésil actuelle risque fort, elle aussi, d'être fragilisée et qu'il y a là quelque chose, une déstabilisation potentiellement beaucoup plus vaste.
Gilles, si on reste sur le continent sud-américain, c'est vrai que le Venezuela avait une place particulière dans ce continent. Sous Chavez, il y avait la mise en place de l'ALBA, l'alternative bolivarienne des Amériques, qui était largement considérée comme une réponse sud-américaine aux Yankees du Nord. La chute de Maduro, parce qu'on peut parler de chute aujourd'hui de Maduro, et peut-être demain du régime vénézuélien, même si on n'y est pas encore, traduit peut-être aussi la fin d'une aventure qui s'est inscrite sur une longue durée et qui avait cet adjectif de bolivarien qui ne plaisait guère à Washington.
Non, vous avez raison. Et d'une certaine manière, le Venezuela a pris le relais de la révolution cubaine quelques décennies plus tard. Et cette révolution bolivarienne avait comme adversaire principal les États-Unis et se construisait d'ailleurs beaucoup dans l'opposition politique, idéologique aux États-Unis.
On se souvient de Chavez, America si, Yankee no.
Voilà. Après, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains jours. On ne sait pas. On sait que Maduro n'est plus là. On ne sait pas ce que va être la réaction de l'armée et la réaction du peuple. La réaction de l'armée qui a un rôle absolument central et qui n'est pas... Pour le coup, la révolution bolivarienne lui est assez indifférente. Oui. En revanche, l'argent du pétrole, parce que le cœur de la corruption de ce régime qui est extraordinairement corrompu, le cœur de la corruption, c'est l'armée. Donc savoir, l'armée a des intérêts à défendre, qu'est-ce qu'elle va faire? Et puis le peuple vénézuélien, alors, qui a subi une émigration absolument massive devant une tragédie sociale dont on avait parlé, politique, sociale dont on avait parlé ici, j'avais été frappé à l'époque où j'avais fait cette campagne, donc il y a plus de 10 ans, de la capacité de mobilisation incroyable qu'il y avait dans une campagne électorale. Le premier meeting qu'on avait organisé au lendemain de la déclaration de candidature de Nicolas Maduro, il nous prévient donc le mardi après-midi qu'il veut faire un meeting pour lancer sa campagne. On lui dit, oui, très bien. Il dit, mais je vais le faire demain. Il dit, demain, c'est quand même bientôt. Il dit, oui, mais je vais faire un petit meeting, on va faire un meeting de 100 000 personnes. On dit, ah, 100 000 personnes, c'est quand même beaucoup. Est-ce que vous savez où vous devez le faire? Je n'ai pas encore décidé. Il finit par décider en fin d'après-midi. Le lendemain, il y avait 100 000 personnes qui étaient dans la rue. Donc, il y avait une capacité d'organisation et une capacité de mobilisation. 10 ans après, est-ce que ça demeure? On va le voir cet après-midi.
Alors, on élargit la focale une dernière fois à l'échelle mondiale. On a entendu des réactions russes, on a entendu des réactions françaises sur le dérèglement du monde, sur le danger, et même la Charte des Nations Unies qui peut être ici interrogée. Natacha, à l'échelle mondiale, est-ce que c'est un événement qui a cette résonance-là?
Bien sûr. Alors, pour ce qui est de la Charte des Nations Unies, je pense qu'elle sert de paillasson oui. actuellement, et que c'est même ça le plus frappant dans cet événement. L'autre élément, c'est évidemment la colère de Vladimir Poutine, oui. ce qui est très intéressant, parce que il y a une dimension assez simpliste dans certains commentaires actuels, que ce soit en France ou ailleurs, sur le fait que Donald Trump serait un pion de Vladimir Poutine. Oui. Absolument pas. Et nous en avons évidemment la preuve. Donald Trump poursuit les intérêts américains dans toutes leurs dimensions. Et on voit, en revanche, à quel point Vladimir Poutine, lui, est en train de perdre petit à petit ses différents alliés, que ce soit la Syrie, maintenant le Venezuela. Il y a une fragilisation objective de la Russie. Mais je citais dans ce cadre-là le Brésil, parce qu'en fait, la question de l'émergence des BRICS est donc... La question de savoir oui. quelle va être la réaction chinoise oui. est, de ce point de vue-là, extrêmement intéressante. Parce que le phénomène de sortie de la sphère du dollar, de la oui. puissance américaine, est un phénomène qui est certes lent, qui est certes fragile, mais qui est en train de s'affirmer. Et on le voit aussi bien au Brésil qu'en Chine. Donc tout ça n'est que le début en fait de la recomposition du monde.
Oui, passionnant ça. Gilles, est-ce que le Sud... En fait, doit-on attendre une réponse du Sud global? Et peut-il y avoir une réponse d'un Sud global face à un événement, certes majeur, mais tout de même régional?
La question est de savoir quelle va être la grille de lecture. Est-ce que ça va être le Sud global dont on a oui. parlé ici à plusieurs reprises des divisions et des fragilités contre l'Occident, dont on a vu
ses
divisions et ses fragilités? Ou est-ce que c'est annonciateur du règne de la force et du retour du monde des empires? Et c'est peut-être plutôt vers cela qu'on risque de se diriger. C'est vrai, en Amérique latine, Natacha l'a dit, et l'enjeu n'est pas seulement le Venezuela, mais ça peut être après la Colombie, ça peut être évidemment Cuba. Oui. Dans un monde, dans une Amérique latine très différente de celle d'il y a quelques années, avec les victoires de l'extrême droite de Milei en Argentine, et on en avait parlé il y a quelques semaines de Cast au Chili. Mais au-delà même de l'Amérique latine, c'est quelque chose d'important pour l'Asie. Les vues de la Chine sur Taïwan se passent dans un contexte différent.
Elles se légitiment quasiment.
Bien sûr. Et vous parliez, Thomas, de la colère de Vladimir Poutine, mais d'une certaine manière, ça justifie aussi oui. à la fois ce qu'il a fait, ce qu'il essaye de faire en Ukraine et ce qu'il potentiellement peut faire au-delà de l'Ukraine.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Justement, pour le deuxième thème du duel, direction l'Ukraine, avec les vœux du président Volodymyr Zelensky, c'était le 31 décembre. Il ignorait bien sûr tout de ce qui allait se passer au Venezuela et de ce que nous expliquait Gilles à l'instant sur les conséquences aussi que cela peut avoir dans sa région. Il y a une rencontre entre Zelensky et Trump en Floride, mais précédée d'un coup de fil de Trump à Poutine. On va écouter les vœux de Zelensky et on y revient ensuite.
L'accord de paix avec la Russie est prêt à 90%. Il reste 10% et cela représente bien plus que de simples chiffres. Ces 10% contiennent tout. Ce sont 10% qui détermineront le destin de la paix, le destin de l'Ukraine et de l'Europe, la manière dont les gens vivront. 10% jusqu'à la paix.
Alors la musique, c'est pas nous qui l'avons ajouté, hein. C'était la musique des vœux qui habillait les paroles de Volodymyr Zelensky. Ces 10%-là, c'est quoi, Natacha? Est-ce que c'est une manière de dire qu'on y est presque ou qu'on en est très loin?
En fait, je dirais les deux en même temps. C'est-à-dire que c'est une manière de préciser que tout peut capoter à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, tout est fait en partie pour capoter. On l'a bien vu ces derniers temps, avec notamment les annonces de la Russie sur une supposée frappe sur la résidence de Vladimir Poutine. Oui. Alors pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Les Russes prétendent avoir...
preuves du contraire.
Voilà, c'est ça. Alors les Russes prétendent avoir transmis des choses aux autorités américaines. Il n'y a rien. Mais cette information-là donne évidemment l'impression qu'il y a un prétexte pour durcir des négociations, voire pour refuser ou pour mettre fin aux négociations. Donc on voit à quel point tout cela est évidemment éminemment fragile, dans un contexte où on a vu à la fin de l'année 2025 des allégations sur les reprises de territoire, sur les gains, sur les défaites, qui montrent bien à quel point cette question des territoires est aujourd'hui cruciale. J'ajouterais un dernier point, c'est la nomination à la tête du cabinet de Volodymyr Zelensky de Kirillo Budanov. C'est-à-dire que là aussi, l'année 2025 a été une année extrêmement compliquée avec cette révélation du scandale de corruption parmi les proches de Volodymyr Zelensky, révélation dont on peut même se demander d'où elle émane et pourquoi elle sort à ce moment-là. Budanov étant l'ancien chef du renseignement, donc qui a à son actif énormément d'actions extrêmement importantes. C'est un personnage qui compte en Ukraine, qui a reçu un entraînement de la CIA, donc qui est considéré comme un proche des États-Unis. On va voir si c'est une... Enfin, là aussi, on ne peut pas interpréter et savoir si c'est une façon de faire avancer les négociations ou pas. Dernier point, le rôle de l'Union européenne. Dans le plan de paix de Donald Trump, est évoqué une intégration de l'Ukraine à l'Union européenne en 2027. C'est-à-dire demain. C'est quelque chose, là aussi, qui va nécessiter que l'Union européenne se positionne, et se positionne de façon très concrète, parce que c'est potentiellement extrêmement dangereux pour les pays européens, pour la France notamment, pour des raisons de désindustrialisation, de risque de dumping, etc. Donc il faut absolument que, là aussi, les Européens travaillent à ça. Il y a une réunion le 6 sur les forces de réassurance, mais les questions financières sont tout aussi importantes. L'emprunt communautaire qui a été décidé le 18 décembre, donc de 90 milliards pour l'Ukraine, c'est potentiellement 20 milliards pour la France. Or, l'Union européenne n'a même pas encore commencé à rembourser l'emprunt Covid. Donc ce nouvel emprunt, il va falloir le rembourser à un moment, personne ne sait comment. On verra bien ce que ça va donner.
C'est l'année de tous les dangers 2026 pour l'Ukraine. On a appris qu'en 2025, les avancées russes n'avaient jamais atteint un tel niveau. Les avancées sur le territoire ukrainien par les forces russes, c'est l'équivalent de 2023 plus 2024. Il y a une difficulté aujourd'hui, sans compter les scandales de corruption qu'évoquait Natacha, sans compter les aventures trumpistes ailleurs dans le monde, d'un abandon de l'Ukraine.
On peut avoir le sentiment qu'il ne se passe pas grand-chose de décisif.
Oui.
Il y a des événements et la nomination de Budanov en est un. J'ajoute un élément, c'est qu'il a une caractéristique importante pour les Ukrainiens, c'est que ce n'est pas un proche de Zelensky et que c'est un signe aussi qui est donné en le nommant. Donc on peut avoir ce sentiment qu'il ne s'est pas passé grand-chose de décisif. C'est vrai d'un point de vue militaire, parce que vous dites à raison que les gains territoriaux de 2025 sont équivalents à ceux de 2024 et 2023, mais le total des gains depuis 2023, donc sur les trois années, c'est un peu plus de 1% du territoire, c'est-à-dire que c'est au total 7500 km² sur les trois ans, alors qu'il y a eu une percée initiale, 110 000 km² depuis 2022 et seulement 7000 depuis 2023. Donc il y a une accélération, mais dans un grignotage qui reste un grignotage très laborieux. Donc on peut avoir ce sentiment qu'il ne se passe pas grand-chose d'un point de vue militaire, et on peut avoir le sentiment aussi qu'il ne se passe pas grand-chose d'un point de vue diplomatique. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de rencontres, y compris Donald Trump et Vladimir Poutine. Hein, c'est quand même un élément nouveau. Il y a eu beaucoup de déclarations, il y a eu beaucoup de négociations, il y a eu des plans de paix, mais en réalité, ça ressemble à des gesticulations, puisqu'il ne s'est rien passé. Quand on entend les vœux de Vladimir Poutine, on a entendu ceux de Volodymyr Zelensky Nous croyons en notre victoire, dit-il. C'est donc il reste dans cette perspective-là. Et Zelensky évoque la paix moins 10% avec la double grille de lecture que l'on peut avoir. Qu'est-ce qui peut se passer cette année? Parce qu'on a quand même le sentiment que l'année 2026 peut être une année, pour le coup, plus déterminante. L'Ukraine a vraisemblablement compris, et quand je dis vraisemblablement, l'Ukraine a compris qu'il n'y avait pas de solution militaire pour elle. Elle a compris aussi que pour les États-Unis, il était plus facile de faire pression sur l'Ukraine que de faire pression sur la Russie, et qu'il n'y aura sans doute pas, avec Donald Trump, un nouveau paquet d'aide. Donc, elle a ça en tête. Et quand Zelensky dit dans ses vœux « nous voulons la fin de la guerre, nous ne voulons pas la fin de l'Ukraine », je crois qu'il fixe très clairement le cadre. La question, c'est est-ce que Vladimir Poutine est prêt à accepter des concessions et à ne pas rechercher la capitulation. C'est ça la question qui est posée. Et d'un côté, il peut se dire que c'est le bon moment, peut-être, pour lui, parce qu'il y a des midterms à la fin de l'année. Et
en novembre.
Que la situation peut être moins bonne pour lui aux États-Unis. Et d'un autre côté, il peut espérer conquérir petit à petit, par cette accélération du grignotage que vous évoquiez, Thomas, la totalité des oblasts de l'Est, et qui pourrait lui donner le sentiment d'une victoire.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
À la fin de l'année, quand le moment sera venu, s'ouvrira peu à peu la prochaine campagne pour l'élection présidentielle de 2027. La première à laquelle je ne participerai pas depuis 10 ans. Pour autant, je serai jusqu'à la dernière seconde au travail, tâchant chaque jour d'être à la hauteur du mandat que vous m'avez confié.
Alors, les autres vœux, ceux du président de la République française, Emmanuel Macron, c'était le 31 décembre dernier, des vœux brefs et un message qui se voulait très clair. Ce message clair, on l'a entendu, pas une année de perdu. Je dirigerai le pays jusqu'en 2027, jusqu'à la dernière seconde. Est-ce que c'est de la méthode de Coué, Gilles ?
Les vœux ont été brefs, je crois qu'ils ont été ratés, pour le dire de manière un peu brutale. Je trouve que c'était des vœux qui étaient sans tension, sans attention de l'opinion et sans intention du président. Donc ça peut paraître sévère, peut-être que les défenseurs d'Emmanuel Macron diront c'est injuste, il a quand même fixé quelques chantiers, les réseaux sociaux, la fin de vie, le service national, mais c'était très peu et c'était très imprécis. Les mêmes diront peut-être, et là l'argument est plus intéressant, que cet affaiblissement de fin de mandat est sans doute inévitable quand on est dans la deuxième moitié du deuxième quinquennat, et qu'on était dans un moment, et je crois que ça qui est vrai, que ce n'était pas encore le temps du bilan, ça sera pour les vœux de l'année prochaine, mais qu'on n'était plus vraiment dans le temps de l'action, en tout cas qu'il n'avait plus les moyens de l'action. Donc ça, ce n'est pas faux. Malgré tout, je pense que ces vœux ont été ratés et qu'il aurait pu faire mieux, et que le problème initial, c'est ce mot de l'utilité que je trouve très, très intéressant. Alors, mot éculé, utilisé tout le temps, il faut que cette année soit une année utile. Le problème, c'est que le président n'a jamais acté le nouveau rôle qui était le sien depuis la majorité relative de 2022 et davantage encore depuis la dissolution de 2024. Il continue à entretenir l'illusion d'un président qui gouverne. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucune utilité à trouver et à chercher dans ce qui va se passer, parce qu'il ne peut rien se passer de déterminant. En revanche, dans le monde que l'on vient d'évoquer, un président qui préside, qui s'occupe de la démocratie en France, il en a dit un mot, il aurait dû en dire davantage, comment préserver notre processus électoral, et un président qui s'occupe de l'international, il n'a pas parlé, il n'a pas cité ni la Chine, ni les États-Unis dans le monde que nous connaissons. D'une certaine manière, le chancelier allemand, si on a fait les vœux de Poutine, les vœux de Zelensky, les vœux de Macron, les vœux de Merz, il était beaucoup plus sur l'international. Et je crois que là, il y a une utilité à trouver et à défendre pour le président de la République.
Il aurait dû revêtir des habits de chef de guerre.
Je ne dis pas de chef de guerre, il aurait dû du président de la République, du chef d'État, dans le contexte international que nous connaissons.
Êtes-vous aussi sévère, Natacha ?
Je crains que oui, parce que en effet, on ne peut pas balayer d'un revers de main les chantiers de la fin de vie du service national et de la majorité numérique à 15 ans. Ce sont des éléments indéniablement importants. Cependant, ça risque fort de masquer l'essentiel, et en effet, l'essentiel n'y était pas. Mais la question est de savoir pourquoi. Alors, il y a en effet cette question du temps politique utile. C'est une question extrêmement importante, parce que l'une des grandes fautes d'Emmanuel Macron, c'est par sa dissolution, d'avoir privé la France de plusieurs années de temps politique utile. C'est-à-dire que nous savons tous qu'il ne se passe rien, et qu'il ne se passera rien, et que de toute façon, là, nous entrons dans un moment où la succession de la campagne des municipales, puis de l'entrée dans la campagne présidentielle, va faire qu'il ne se passera rien de plus sur le plan intérieur, en tout cas rien de fondamental. C'est un énorme problème pour un pays qui est en train de se dégrader de partout, et même si Emmanuel Macron a essayé d'insister par cette phrase « notre pays tient », c'est en fait une réponse à ce qu'il perçoit, à savoir le sentiment de beaucoup de Français que, au contraire, ça craque de partout. Deuxième point, souvenons-nous quand même des vœux de l'an dernier, dans lesquels Emmanuel Macron nous avait annoncé des référendums. C'est-à-dire qu'il a lui-même décrédibilisé sa parole.
Alors, il n'a pas annoncé de référendum, il a annoncé qu'il redonnerait la parole aux Français.
Oui, ce qui était une...
Non, mais ce que nous avez fait beaucoup discuter de savoir ce que ça voulait dire.
Pour trancher.
Oui, voilà.
Ça ressemble beaucoup à un référendum.
Oui, ça ressemble beaucoup à un référendum. Nous l'avions commenté ici. Gilles avait, de toute façon, fort logiquement, émis les plus grands doutes sur la possibilité d'organiser des référendums, même en termes de calendrier électoral. Et il avait raison, mais on ne joue pas comme ça avec la parole du chef de l'État. Et en effet, la seule chose qui lui restait et qui était essentielle, c'était une lecture du monde et une lecture de la place de la France dans le monde. Et ça, eh bien, ça n'a pas eu lieu. C'est quand même dommage.
Gilles, un mot là-dessus encore ou on avance ?
Avançons.
Allez, on avance. On avait prévu, et on va le faire quand même, de vous donner une petite carte blanche à l'un et l'autre sur les choses à regarder en 2026 qui vous semblent importantes, un enjeu pour se projeter. Il nous reste quelques instants avant de recevoir notre invité. Gilles, je commence avec vous.
Alors, la carte blanche, en fait, c'est assez vertigineux, oui. Puisque normalement, on a une question, on essaie de répondre
aucune
à la question.
Question.
Et donc là, donc il n'y avait pas de question, j'avais beaucoup de tentations. La tentation, ce qui ne va pas vous surprendre, la tentation sportive. Oui. À la fois les objectifs individuels et les objectifs collectifs, la Coupe du Monde, mais c'est quand même pas à la hauteur, c'était trop attendu par vous, Thomas.
Même si la Coupe du Monde 2026, en partie aux États-Unis, en partie au Mexique, aura une résonance, j'imagine, très très politique cette année, mais allez-y.
Vous essayez de trouver de la politique partout, mais il y a quand même le foot. Donc il y avait ça, il y a évidemment la tentation internationale, c'était celle la première peut-être à laquelle on pouvait penser avec ces différents déploiements, et puis je dirais quand même la tentation, je m'arrête sur la démocratie, il y a cette année... conjonction d'élections, les midterms aux États-Unis, on en a dit un mot, en Israël, en Hongrie. Donc, le pouvoir d'Orban, de Netanyahou et de Trump va être en jeu cette année. Et puis, la même chose, la démocratie en France, peut-être cet espoir qu'on cultive le goût du débat et qu'on retrouve le sens du débat.
Natacha, même question vertigineuse. Quoi pour 2026 ?
Moi, je vais faire très simple. Hein. Les vœux traditionnels, en général, c'est santé, prospérité et surtout les enfants. Donc, santé, c'est le sujet de préoccupation principale des Français. Et je pense que notre système de santé a véritablement besoin qu'on s'en occupe. Oui. Il y aurait énormément de mesures à prendre. Prospérité, on a une manifestation qui est prévue là, des agriculteurs le 6. On a des annonces de défaillance d'entreprises, de désindustrialisation, donc il serait peut-être temps là aussi de s'en occuper. Et puis les enfants, regardons l'état de l'école. Je pense que là aussi, il y a beaucoup de choses. On parlait de temps politique utile. C'est vraiment, vraiment bien dommage qu'on n'éprouve pas le besoin d'utiliser en effet ce temps politique.
Quant à moi, j'attends avec beaucoup d'impatience et d'émotion aussi l'entrée au Panthéon de Marc Bloch. Ça sera en juin prochain. Ce sera, je crois, un très grand moment d'intelligence collective. En tout cas, je l'espère. C'est le souhait qu'on peut faire ensemble pour l'année qui arrive. Il y aura aussi, ça on peut en être certain, des surprises dans l'année qui vient. Voilà qui fait une transition assez audacieuse vers notre invité. Place au débat.
Le grand face-à-face, le débat.
Bonjour Valérie Zenati.
Bonjour.
Merci de commencer l'année avec nous.
Merci à vous.
Romancière, traductrice, scénariste et ici essayiste avec ce livre La Surprise, sous-titre Une innocence renouvelée. Ce livre n'est pas un éloge béat à la surprise, pas du tout. Certaines, on s'en passerait allègrement. Mais c'est une invitation à en faire quelque chose de la surprise. Ce quelque chose, on va essayer de le définir ensemble. Mais pour commencer notre entretien, j'aimerais vous faire entendre les propos d'une romancière que vous citez d'ailleurs à plusieurs reprises dans votre livre. C'est Marguerite Duras. Il y a plus de 40 ans, sur France Culture, elle dialogue longuement avec l'écrivaine également Marianne Alphand, et notamment sur la télévision qu'elle trouve indigente et sans surprise.
Il n'y a plus de mouvement de surprise comme il y en avait encore il y a 10 ans, 15 ans. Des moments merveilleux, enfin. Oh, ah ben, je me souviens d'un moment inoubliable. C'était Pierre Dumayet. Il avait interrogé en Amérique latine un vieux paysan qui travaillait depuis 40 ans dans ces grandes latifondias, vous savez, les grandes propriétés. Et il lui a demandé ce qu'il pensait de son maître. Le paysan est resté une minute entière à le regarder, à rire nerveusement, à se reprendre, à ne pas comprendre la question. Il est resté avec son micro. Et après une minute, l'homme a dit qu'il ne comprenait pas la question, quelque chose d'équivalent. Enfin, j'appelle ça des documents inoubliables.
C'est beau ça.
Merveilleux, ouais. Merci.
J'étais très très heureux de le retrouver dans le bon plaisir sur France Culture. L'inoubliable ici vient de l'accueil de la surprise. La surprise, on doit aussi l'accueillir.
Oui, de toute façon, la surprise nous impose quelque chose auquel on n'est pas prêt. Et donc, qu'on le veuille ou non, on est saisi. On est saisi par elle. Ensuite, là je trouve merveilleux l'exemple que donne Marguerite Duras, parce que justement, elle parle de la surprise qui est un mouvement, hein. Elle dit qu'il n'y a plus de mouvement de surprise,
oui.
Donc elle reconnaît que la surprise est un mouvement, et donc quelque chose qui va nous entraîner en dehors de ce qu'on croit être fixé une fois pour toutes. Une vision du monde, très souvent une vision du monde, des convictions, un récit factice forcément que l'on fait sur l'existence. Et là, ce que j'aime dans cet exemple, c'est que la surprise vient du fait que cette personne n'a pas de réponse à la question.
Oui.
Et c'est ce désarroi, c'est ce silence, c'est cette suspension entre un automatisme qu'on croit, qu'on veut croire, parce que c'est très scolaire, il y a une question, donc il y a une réponse. Mmh. Et puis non, il n'y a pas forcément de réponse à toutes les questions. Et donc, ce qu'elle pointe là, c'est quelque chose qui m'a animée moi-même en écrivant ce livre, c'est d'essayer de saisir tout ce qui nous met à l'arrêt et qui ensuite peut nous remettre, et la façon de se remettre en mouvement à partir de ce premier arrêt, qu'il soit de la sidération, de l'émerveillement, de l'extase, de l'accablement, parce que la surprise, c'est un éventail très très large de merveilleux et de terrifiant.
Merveilleux et terrifiant, on va y revenir pour ces deux dimensions, mais dans l'extrait de Marguerite Duras, Pierre Dumayet a aussi le génie de laisser au montage une minute de silence, une minute de réflexion de la part de celui qui est surpris. Est-ce qu'aujourd'hui, on a perdu ça, ce sens de la surprise ?
Alors, effectivement, si on relie la surprise au temps, parce qu'elle est reliée au temps, la surprise est un événement unique, à un moment unique. Dans une époque où effectivement les moyens de transmission sont en direct, en permanence, on a accès en direct à la surprise, le danger, c'est de ne pas prendre le temps de cette suspension, justement. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, en radio, je ne sais pas qui laisserait une minute de silence s'écouler.
Alors,
dans
en radio, c'est plus compliqué qu'en télé, quand même.
Oui, dans une émission. Mais ça pourrait être très
bien
beau.
Sûr.
C'est-à-dire laisser résonner, parce que le silence, ce n'est pas rien. Le silence, c'est l'espace qui permet de laisser résonner une question, le sens de cette question. Et là où ça rejoint l'inoubliable, c'est que qu'elle évoque là, c'est que la surprise est quelque chose qui va nous faire entrevoir l'inimaginable. Et donc, on ne pourra jamais oublier que l'inimaginable s'est produit.
On va y revenir, mais sur le moment présent, sur la disparition peut-être de la surprise, il n'y a qu'à ouvrir nos téléphones portables, et sur les réseaux sociaux, de plus en plus de réseaux vous proposent un fil d'information pour vous. C'est l'inverse même de la surprise, puisque précisément, ils sont là pour capter notre attention en nourrissant nos désirs déjà pré-mâchés, pré-pensés. C'est la fameuse dimension algorithmique du monde dans lequel on vit. Ça, il y a une petite part dans votre livre, très peu, c'est assez peu présent dans votre livre, l'algorithme, mais je crois que c'est fondamental dans la disparition de la surprise.
Oui, oui, de toute façon, ce livre, pour moi, était un livre que j'aurais pu écrire juste à la fin de mes jours, parce que, par définition, la surprise, la dimension créatrice et destructrice de la surprise est infinie. C'est-à-dire, ouais. Mon hypothèse dans le livre, c'est que la surprise est notre premier état au monde.
Oui, la naissance.
La naissance.
Winnicott.
Et, voilà, exactement. Et peut-être le dernier. Et que, voilà, encadré par ces deux surprises dont nous n'avons jamais conscience, dont nous ne pouvons pas avoir conscience, on va de surprise en surprise qui nous transforme, qui aiguise notre curiosité, notre désir de connaissance, qui nous donne confiance ou nous désespère. Et là, je dirais par rapport à votre question que je donne des pistes. Mmh. Et en effet, cette manière qu'ont les algorithmes d'aller dans le sens de ce que nous avons déjà établi, effectivement, nous met à l'écart de ce qui pourrait nous désorienter. On souhaite peut-être de moins en moins être désorienté.
Se perdre, voilà. Le GPS.
Exactement, exactement. Et de plus en plus savoir où l'on est, où l'on se situe. Et donc oui, c'est un danger qui est là, qui est numérique. Et je pense que la réponse à ça, c'est la réponse justement qui va du côté des sens de notre corps, de nos sensations, de nos rencontres, de tout ce qui fait notre singularité.
Alors on va y revenir. Hein, pourquoi c'est important d'accueillir, d'accepter et même parfois de susciter la surprise, Gilles?
Alors, votre essai est vraiment très stimulant et très étonnant. Oui. Parce que, en fait, c'est pas complètement un essai traditionnel. C'est l'essai aussi de quelqu'un qui est un écrivain. C'est un essai qui est un essai très, très sensible, qui mêle des formes très différentes. Et la surprise, elle n'est pas seulement dans le contenu, elle est aussi dans la forme même.
C'est vrai.
Du livre. Il y a
des interjections,
des témoignages, des citations des citoyens, des citations d'essais, de romans. Il y a donc des choses très, très, très différentes. Et alors, j'ai été surpris, moi aussi, qui viens de terminer un livre, par la manière dont vous dites avoir écrit ce livre, et je voudrais commencer par sa page 135, vous dites « Je dis que je comprends en écrivant, et plus encore, a posteriori, que le début d'un livre est un voyage non organisé. » Donc, c'est-à-dire que vous... C'est un sujet sur lequel j'ai l'impression que vous avez réfléchi, travaillé, qui vous a travaillé depuis longtemps, mais vous commencez à écrire comme ça et vous voyez où ça vous mène.
Oui, disons que pour moi, l'écriture est en quelque sorte une tentative d'être dans la... de saisir la vie qui reste insaisissable. Enfin, je crois que depuis l'enfance, je suis prise entre l'extrême petitesse de l'être et l'immensité du monde et du temps, comme beaucoup d'êtres peut-être, qui se sont posés ces questions fondamentales de leur finitude face à l'infini, voilà, tout ce qui est en fait un chaos qu'on essaie d'organiser. Et qu'on essaie d'organiser par des récits, par l'histoire, par la sociologie, par l'économie, par la littérature, par la politique. Moi, je suis prise là-dedans depuis mon enfance. Et la littérature, l'écriture, c'est pas la littérature, c'est l'écriture, est pour moi le lieu où je peux éprouver le vertige face à ce que je ne comprends pas. Voilà, pour moi, c'est une expérience existentielle, l'écriture. Je me place à un endroit du vertige. Parce que si je ne choisis pas de lieu, je vais rester tétanisée. Donc là, l'endroit du vertige, c'était ce mot surprise. On m'a demandé de choisir un mot.
Oui.
C'est une collection.
C'est une commande au départ.
Voilà,
hein.
C'est une commande, une collection, les grands mots. Choisissez un mot qui va vous permettre de déployer une vision du monde, de l'existence, de traiter une question. C'est vertigineux de choisir un seul mot. Lorsque le mot surprise s'est imposé, j'ai su que j'allais y aller et que j'allais ouvrir ce mot, mais je n'avais strictement aucun plan. Et c'est en éprouvant tous les aspects de la surprise et en me laissant surprendre que j'ai écrit le livre. Donc il y a une part de... En fait, c'est ce que Jean Télévitch appelle l'aventure, c'est-à-dire c'est ce qui advient. Qu'est-ce qui advient quand j'écris J'arrive avec des mots, d'une manière que je ne saurais expliquer, à saisir quelque chose qui est un sens, une piste, une question que je ne m'étais jamais posée en ces termes.
Ce n'est pas l'écriture ou la vie, c'est l'écriture et la vie chez vous.
Et l'écriture dans la vie, exactement. Oui.
Natacha.
Et l'écriture dans la vie incarnée. Parce que ce qui est très frappant dans votre livre, c'est que justement, on a l'impression que tout votre travail tourne autour de cette idée de saisir le mystère de l'incarnation. Et c'est en ça que la naissance est une surprise. Et vous citez à un moment cette phrase magnifique de Kafka, « On ne grandit pas de bas en haut, mais de l'intérieur vers l'extérieur. » Et vous dites que c'est donc par le contact avec ce qui nous étonne que la surprise redéfinit nos contours. J'aimerais que vous me parliez de ça parce qu'en effet, on citait la question des algorithmes, c'est-à-dire l'écran et le choix virtuel, c'est le contraire absolu de cette incarnation.
Oui, et merci beaucoup de prononcer le mot mystère, parce que c'est ce qui évidemment est à l'origine, je pense, de toutes mes réflexions, mes envies de travail. Moi, je viens d'une famille croyante et pratiquante, et j'ai connu, on va dire... Oui, tout à fait. Et j'ai connu la confrontation au mystère par la foi, enfant. Et puis, je l'ai perdu. Et donc, ça a laissé un champ extrêmement vaste à la quête d'une manière d'affronter le mystère, mais autrement. Et cet autrement, c'est autant... C'est pour ça que le livre emprunte un peu toutes ces nuances.
Oui.
C'est autant la littérature que le cinéma, la musique, la rencontre humaine. C'est-à-dire, aujourd'hui encore, je crois que les plus grandes surprises, pour moi, proviennent de l'altérité et de la rencontre avec quelqu'un qui n'existait pas dans ma vie jusque-là. Quand on parle de l'existence, on parle, et cette phrase de Kafka, qui est issue des conversations avec Gustave Janouche, a été pour moi une immense révélation. Parce qu'en effet, dans l'idée qu'on grandit de bas en haut, on mesure 50 cm à la naissance et on atteint un jour 1m63, on ne peut pas résumer à ça, évidemment, l'expérience d'une vie. Tandis que tout ce qui est l'intériorité, cette intériorité mystérieuse, inaccessible, et en même temps qu'on contient, là, bien sûr, que ce processus de grandir va être infini, parce que chaque contact avec du nouveau va nous faire grandir et donc nous faire sentir vivants. Et je dirais que... Moi, je n'écris pas contre quelque chose, et surtout, la surprise, pour moi, c'est aussi un livre d'humilité. C'est-à-dire, le sous-titre, c'est « Une innocence renouvelée ». C'est dire, mais en fait, on croit savoir, et il arrive des événements qui ébranlent toutes nos certitudes. Pour le pire comme pour le meilleur. Et donc, la surprise, c'est aussi pour moi d'abord une leçon d'humilité. Donc, j'utilise les nouvelles technologies, je suis aussi sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas en guerre, je pourrais pas dire que je suis en guerre contre, parce que je ne saurais pas très bien ce que ça voudrait dire. En revanche, pour moi, il y a toujours ce rappel à la singularité et à une liberté qui consiste à aller en dehors d'un chemin qu'on veut nous imposer, d'un chemin de pensée, d'un chemin de vision du monde, de réflexion.
Est-ce que ce livre aurait pu s'appeler « Mystère » ou « Curiosité » par exemple ?
Oui, tout à fait, mais je pense que la surprise englobe ces mots. Le mystère, là aussi je pense qu'il faut revenir au mystère de l'existence, parce que tout à l'heure, voilà, je discutais avec le serveur qui me servait mon café, et puis il me disait bonne année, et il me dit, et l'essentiel, c'est la santé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent ces jours-ci, et surtout la santé. Et je lui dis, mais alors comment vous expliquez qu'il y a tant de gens en bonne santé qui ne sont pas heureux, si l'essentiel, c'est la santé? Et il me dit, il m'a fait cette réponse magnifique, il m'a dit, parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. J'ai trouvé ça très beau. Cette idée de gratitude, c'est-à-dire, c'est vrai que lorsqu'on est en bonne santé, on n'éprouve pas forcément de reconnaissance à l'égard de ce corps, à l'égard des mystères, là encore, de la biologie, qui font qu'un corps est en bonne santé et qu'un autre ne l'est pas. Et donc, dans cette reconnaissance, dans cette gratitude, il y a un contact avec le mystère. Et moi, je sais que le mystère peut évidemment faire peur. Ce livre est né de différentes surprises intimes et collectives, dont la pandémie de 2020. Moi, je suis désolée parce qu'on a l'impression que c'est loin.
Oui, vous rappelez le discours du président de la République qui nous confine.
Voilà.
Ça, c'est une surprise.
Et qui dit, à partir d'aujourd'hui, rencontrer des amis, aller au parc sera impossible. Ouais. C'est-à-dire, la pandémie comme ébranlement existentiel d'une puissance inédite jusque-là n'a finalement pas suscité tant de réflexions. Or, moi, j'ai le sentiment que quand on est face à un mystère, on peut en avoir peur parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Mon mouvement, c'est d'essayer de comprendre et de penser à partir de cet temps inenvisagé.
Ce que je disais au début, en faire quelque chose.
Voilà, tout à fait.
Y compris d'ailleurs d'une maladie.
Oui, aussi, certainement. Alors là aussi, il faut être très prudent parce que la maladie est d'abord une souffrance.
Évidemment.
D'abord et avant tout. Et je souhaite bonne santé à tout le monde.
Et gratitude. Oui. Gilles.
Je voudrais revenir sur le sens de ce mot parce que Natacha a cité Kafka, de l'intérieur vers l'extérieur. Et à un autre moment, vous qui êtes aussi traductrice et traductrice de l'hébreu vers le français, vous parlez de la racine du mot surprise en hébreu et vous dites, je vous cite, « Alors que le français nous mettait sur la piste de l'être dans sa totalité, l'hébreu offre une toute autre direction, le temps. » Est-ce que c'est ça aussi, ou c'est ça d'abord la surprise, cette rupture entre un avant et un après ?
Valérie Zenati.
Oui, merci. C'est la conjonction des deux pour moi, parce que les deux langues à travers lesquelles je pense, c'est le français et l'hébreu. Et donc là, de manière assez merveilleuse, elles m'ont offert la jonction entre l'événement de la surprise, qui est un événement dans le temps, un ébranlement. Un ébranlement qui va fixer un avant et un après. Et un avant et un après dont on a le sentiment qu'ils sont absolus lorsqu'on les vit, on dit « plus rien ne sera comme avant », très souvent. Or, des choses, tout n'est pas ébranlé, tout n'est pas modifié, mais on a ce sentiment-là. Et ça, c'est l'hébreu qui me l'a donné, puisqu'en hébreu, être surpris, c'est être soudainé, être frappé par le soudain. Et en français, c'est tout simplement être pris au-delà de soi-même, au-delà de son être. Donc je dirais que je ne choisirais pas entre l'être et le temps, mais c'est vraiment cette jonction entre l'être et le temps qui reste à la source de ces réflexions.
La surprise, pour l'accepter, pour l'accueillir, c'est aussi être en capacité d'être en confiance avec soi-même. Ça, c'est essentiel dans votre travail aussi, dans votre réflexion.
Oui.
Il faut avoir confiance en soi pour accepter la surprise et l'accueillir.
Oui, j'ai l'impression parce que lorsque j'ai commencé à écrire le livre, j'ai aussitôt rencontré des gens qui me disaient « Ah, moi, j'adore les surprises
oui. »
et d'autres qui me disaient « Oh, moi, je n'aime pas les surprises. » Et on en connaît tous. Oui. Et donc, j'ai essayé de penser ce que signifiait la méfiance vis-à-vis de la surprise. Et donc, il y a 5 catégories qui vont des opposants pacifistes aux désespérés, de catégories de gens qui n'aiment pas la surprise ou ne peuvent pas l'éprouver. Et donc, pour les premiers, on va dire, ce sont, entre guillemets, on les qualifie de psychorigides. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour les gens qui aiment que tout soit organisé et sous contrôle, parce qu'il y a une angoisse à sentir que quelque chose nous échappe. Et donc, ce sont les gens qui aiment être organisés, payer leurs impôts avant l'heure, prévoir leurs vacances...
Je ne sais pas s'ils aiment payer leurs impôts, mais ils aiment savoir qu'ils les ont payés.
Ils sont rassurés par l'organisation et extrêmement angoissés par la désorganisation.
Natacha.
Peut-être que le terme clé, c'est celui de maîtrise. Et évidemment, les catégories que vous faites sont extrêmement intéressantes et il y a énormément de choses à fouiller. Mais il y a un autre moment du livre qui est un peu fugace, mais que j'ai trouvé, qui m'a ébranlé. C'est quand vous évoquez ceux qui aiment faire des surprises.
Oui.
Parce que c'est l'autre point de vue. Et je me suis posé la question, en fait, de ce que ça révélait, ce besoin, cette envie de faire des surprises. Parce qu'en fait, il y a là aussi quelque chose de très ambivalent, c'est-à-dire il y a évidemment la joie de susciter une émotion chez l'autre, mais il y a une joie en fait de maîtriser, de contrôler cette émotion, et il y a presque quelque chose de démiurgique, c'est-à-dire le besoin de dominer l'autre en jouant avec ce qu'il est.
Oui, tout à fait. C'est une prise de pouvoir, parce que en faisant une surprise à l'autre, vous allez prendre le pouvoir sur son temps, sur son rapport au temps plutôt, et vous allez créer pour lui de l'inattendu. Alors, comme la surprise est vraiment d'une très profonde ambivalence, c'est-à-dire encore une fois, on va du merveilleux à la terreur, il y a effectivement ce moment où vous prenez le un peu le pouvoir sur ce que l'autre sait ou ne sait pas, en disant « je vais t'emmener quelque part » et donc il ne sait pas où. Et ça réclame de la confiance, pour revenir à ce que vous disiez Thomas. Il faut pouvoir faire confiance à l'autre pour le suivre aveuglément. Il vous dit « je t'emmène quelque part », bon, où va-t-on? Mais c'est aussi cette prise de pouvoir sur l'autre qui peut être extrêmement joyeuse et bénéfique, qui m'a aussitôt fait penser au fait que la surprise est une arme. Elle est une arme en temps de guerre, une attaque surprise. Enfin, la surprise dans la guerre est en elle-même une arme. Parce qu'une attaque surprise n'est pas la même chose qu'une attaque à laquelle on s'attend, puisqu'on n'a pas les moyens de s'y préparer. Et je dis, voilà, depuis le cheval de Troie, de même je donne l'exemple de la surprise qui est entrée dans le droit comme un élément aggravant du viol. Le viol,
par surprise. Absolument.
Et donc, c'est-à-dire la surprise, lorsqu'elle est utilisée par autrui et sur autrui, peut être une arme également. Et donc, voilà, ça m'a permis de penser, oui, l'ambivalence, encore une fois, de nos vies qui sont vraiment prises entre les pulsions de vie et de mort et entre notre propre naissance et notre propre mort. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, le danger, c'est quand on veut aller uniquement d'un côté, qu'on veut être uniquement du côté du positif ou du négatif, on se trompe forcément.
Oui, parce que ça semble être un livre en fait qui s'adresse aux gens qui ne doutent pas.
Peut-être, oui. Oui, oui, mais oui, merci de le dire ainsi, parce que Gilles tout à l'heure disait qu'il souhaitait une année de débat, possible. Le débat, c'est quand même cet espace où on va accepter de douter de ce qu'on avait cru juste là. Et c'est vrai qu'on a le sentiment, c'est pas une réalité sur le plan personnel, collectivement on a le sentiment que cet espace-là est extrêmement réduit.
Gilles,
Sur la surprise et son ambivalence, vous racontez aussi comment vous aviez installé une forme de rituel avec votre grand-mère ou quand vous alliez la voir, alors que vous saviez que le déroulement de ce séjour allait être un peu immuable, qui commençait toujours par une surprise puisque vous ne la préveniez pas quand vous y allez. Mais donc, il y a des gens qui refusent la surprise, dont vous dressez une typologie. Dans cette typologie, il y a ce que vous appelez les négationnistes, et vous citez le dialogue que peut-être beaucoup ont en tête de Festen du film. D'ailleurs, dont je me souvenais de la scène, mais je ne me souvenais pas de la suite. Oui. Et c'est très intéressant parce que vous disiez tout à l'heure, il y a un avant et un après. Or là, on continue comme si de rien n'était.
Exactement.
On rappelle peut-être Festen, un dîner de famille.
Un dîner de famille, l'anniversaire du père, on sent une très grande tension. Bon, c'est un film fiévreux et magnifique. On sent une très grande tension. Et puis, au moment des vœux, le fils se lève, prononce ses vœux et révèle aux yeux de tous, de cette très grande famille bourgeoise, que le père a abusé de lui et de sa sœur dans leur enfance. Et il décrit cela. Or, c'est vrai que Festen est devenu le terme générique d'une réunion de famille où tout le monde s'engueule. Or, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que rien ne se passe, justement. Il y a un très court silence et on continue de porter un toast et de dire « buvons, mangeons ». Et donc, il y a le déni, la négation de ce qui vient d'être dit. Et on pourrait parler très longtemps du négationnisme. Donc là, je l'ai pris par l'aspect intime, familial. Ouais. Comment une famille ne refuse d'admettre cette surprise de la révélation de la perversité du père. Mais on le voit en histoire aussi, et même dans l'actualité. C'est-à-dire que... Alors évidemment, le négationnisme est aussi intentionnel.
C'est un mot chargé aussi.
C'est un mot chargé, oui, et je l'ai choisi à dessein.
Bien sûr.
Je l'ai choisi à dessein parce que, d'une certaine manière, ce livre, je l'ai écrit quand même dans une époque, enfin dans une année qui n'était pas anodine. Pour moi, parce que je suis beaucoup intervenue sur une surprise de l'actualité qui a été l'attaque du 7 octobre et toutes ses suites. Et je n'ai pas voulu écrire un livre sur le 7 octobre, mais j'ai voulu en quelque sorte saisir ce que notre rapport à ce qui nous surprend peut induire dans nos vies. Et sur le négationnisme, je dirais que c'est bien sûr qu'il est très souvent orienté par une idéologie. Mais il part aussi de quelque chose qu'on refuse d'admettre parce que c'est trop horrible, parce que c'est inimaginable, parce qu'on ne veut pas croire que quelque chose d'aussi terrible a pu se produire. On ne veut pas le croire pour mille et une raisons. Mais à la source de ce refus de croire à l'événement, il y a la possibilité du négationnisme. Comme dans une famille, on refuse de croire qu'un père est capable de violer ses enfants.
Natacha, une dernière petite question assez courte, s'il vous plaît.
Vous avez évoqué ceux qui nient, vous avez évoqué ceux qui se protègent. Que dire de ceux qui peut-être ne sont pas en état et qui vont rater la surprise sans même s'en rendre compte? Valérie Zanetti. Comment on les délivre?
Alors j'ai l'impression qu'on peut peut-être, enfin, on peut les délivrer, ou en tout cas, surtout si on parle des enfants qu'on peut accompagner, puisque là, voilà, on est tourné vers l'année qui vient et on est en permanence tourné vers le futur, même si on regarde beaucoup le passé. J'ai l'impression que il y a une forme d'éducation à l'attention à la surprise, qu'elle soit certes du corps, de l'esprit, et surtout, je le dis à la fin, ressentir à quel point on est capable de se suspendre, de se surprendre. J'aime bien le lapsus que je viens de faire, de suspendre quelque chose de notre jugement, de notre quotidien, en se surprenant soi-même. Voilà. Faire un acte qu'on n'avait jamais fait et qui va ouvrir une nouvelle perspective.
Est-ce que vous aimez quand vous organisez des surprises?
Ça dépend de qui elles viennent, mais oui, lorsque elles sont bien intentionnées, j'adore profondément qu'on m'organise des surprises.
Eh bien, toute votre famille est là. Non. Merci. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour cette première émission de l'année 2026. Elle commence en beauté, en intelligence avec vous. Merci beaucoup, Valérie Zanetti. Votre livre, La Surprise, une innocence renouvelée, c'est aux éditions Autrement, et c'est encore, bien sûr, en librairie. Merci Gilles et merci Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face. Mathilde Clatte à la préparation de l'émission. Maria Pasquet à sa réalisation. Pardon Maria. Et aujourd'hui Loïs Moreau à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France. Et puis, on ne change pas les bonnes habitudes. Je vous retrouve tout à l'heure à 18h sur France Inter pour les trois premiers épisodes d'une nouvelle série Lumière, anatomie d'un idéal, avec l'historien professeur au Collège de France Antoine Lilti, qu'on avait d'ailleurs reçu au Grand Face à Face en direct de Blois il y a quelques mois. Une conversation que vous pouvez déjà écouter dans sa totalité en podcast sur l'appli Radio France. Je vous dis à samedi prochain, midi.